dans la rue des bons enfants, on vend tout au plus offrant. Il y avait un commissariat et maintenant il n'est plus là. Une explosion fantastique n'en a pas laissé une brique. On crut que c'était Fantomas, mais c'était la lutte des classes.
Salut à toutes et tous. L'épisode d'aujourd'hui est un peu spécial puisque je le coproduis avec les Déserteuses. Les Déserteuses, c'est un collectif qui appelle à un mouvement de désertion des ingénieurs et plus largement de désertion du monde de l'industrie du fait de son rôle central dans la destruction du vivant et l'exploitation de l'humain par l'humain. Vous pouvez suivre leur actualité sur leur site web déserteuses.noblogs.org. Si les Déserteuses prônent la désertion, pour elles, celle-ci est indissociable des luttes écologistes et sociales contre les capitalistes et industries qui, elles, viennent précisément de quitter. J'ai rencontré Vivi, qui est membre de ce collectif, et dans cet épisode, je vais le longuement écouter sur son parcours, de sa jeunesse, en passant par sa vie d'ingénieur, sa désertion, et enfin, sa vie d'aujourd'hui, autour de luttes politiques, radicales, d'émancipation. Elle s'est exprimée avec beaucoup de spontanéité et de sincérité, et je l'en remercie encore, sur des sujets personnels, et qui, en même temps, peuvent faire écho au parcours de pas mal de personnes, je pense. Cette sincérité, on la retrouve dans son livre « Au pays des alternatives », sous-titré « Récit d'initiatives écologiques et sociales ». Vivi y porte un discours très offensif et qui dépasse le cadre classique et étriqué de l'écologie. Si vous vous retrouvez de près ou de loin dans son parcours, je vous recommande son livre. Il est très précis et documenté et en même temps facile d'accès. Il a été publié aux éditions Tirage de Tête en mars 2022 avec une réédition en vue pour 2023. Vous pouvez la suivre sur Instagram et sur YouTube pour voir ses reportages vidéo. Tous les liens seront en description. Je m'appelle Sam, je suis un mec cisgenre racisé. Bienvenue à toutes et tous au numéro 13 de la rue des bons enfants.
Dans la rue des bons enfants, viande à vendre aux plus offrants. L'avenir à Dieu prend place et le vieux monde est à la casse. Dans la rue des bons enfants, viande à vendre aux plus offrants. L'avenir à Dieu prend place et le vieux monde est à la casse.
J'ai aujourd'hui le plaisir d'être avec Vivi pour un nouvel épisode. Salut Vivi.
Salut.
On enregistre en plein chantier de la gare de Luméville, dans la Meuse. Isolation, charpente, plancher, sanitaire, etc. C'est un lieu collectif et stratégique contre le projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure, projet appelé CIGEO. Alors Vivi, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. C'est un épisode un peu spécial aujourd'hui, puisque je le coproduis avec les camarades du collectif Les Déserteuses, qui portent une critique radicale du rôle des scientifiques, des techniciens, techniciennes, dans le désastre écologique en cours et dans la perpétuation d'un système de domination. Et de classe notamment, on va certainement y revenir. Et donc quitter son boulot, sa vie d'ingénieur, pour des raisons, disons, politiques au sens large, c'est un sujet dont on va parler aujourd'hui. Mais ma première question, est-ce que tu pourrais te présenter ?
Alors, moi, je suis Vivi. Je suis connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Vivi au pays des alternatives, comme média activiste et militante pour une écologie radicale, donc une écologie qui soit féministe, anticapitaliste, anticlassiste. J'ai 31 ans. Aujourd'hui, au-delà du médiactivisme, je m'investis quasiment à temps plein sur des lieux de lutte, à la fois pour y co-créer des possibilités de vie collective et à la fois lutter contre des grands projets inutiles et imposés. Et j'ai déserté depuis 3 ans mon métier d'ingénieur.
Yes. Alors la question de la désertion, on va y revenir dans un deuxième temps, et la question aussi de, des luttes écologistes et sociales dans un troisième. Et dans un premier temps, ce que je te propose, c'est qu'on tire le fil chronologique de ton parcours et donc qu'on commence par ce qui s'est passé, ce qui t'a amené à arriver en école d'ingénieur, ce qui va concerner finalement ton cadre familial, ta jeunesse. Est-ce que ta famille avait déjà fait des études ? Est-ce que tu penses que ça a influencé tes propres choix ? Et si oui, comment ?
Mon père est coiffeur. Il a quitté l'école après le brevet des collèges, je crois, pour faire un CAP coiffure, une école de coiffure. Et mon père est issu d'une famille qui a migré depuis l'Italie fasciste entre les deux guerres.
Ton grand-père?
Ouais, mon arrière-grand-père, en fait, a migré d'Italie pour arriver dans la Meuse, là où on se trouve aujourd'hui. Et donc, mon grand-père est né en France. Mais il y avait vraiment cet héritage que j'ai retrouvé chez mon père de... On est ici d'une immigration, on doit faire nos preuves. Aujourd'hui, on ne parle plus de l'identité, vraiment, est-ce qu'on est français ou pas? Enfin, il n'y a plus de débat là-dessus. Mais j'ai souvent entendu mon père parler de l'Italie et d'avoir cet héritage italien. Du coup, du côté de mon père, il y avait cet héritage un peu patriarcal de l'usine, mais plutôt la petite bourgeoisie issue de l'immigration. Enfin, j'appelle ça petite bourgeoisie, mais ça se trouve, ça ne l'est pas vraiment. En gros, mon grand-père, il a monté une usine de mortadelle en Meuse. Et il employait pas mal de personnes issues de l'ASE, après que ces personnes aient quitté l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance. Et donc il était reconnu un peu comme étant le bienfaiteur du village, parce qu'il employait des jeunes. Et en même temps, il a eu un peu d'argent, ce qui a permis à mon grand-père d'envoyer mon père à Paris pour qu'il puisse apprendre la coiffure. Et il lui a acheté un salon de coiffure à Paris. Et donc mon père a toujours projeté sur moi l'idée que je puisse perpétuer... cette élévation sociale. Donc mon père a toujours voulu, n'a pas forcément voulu que je fasse des études quand j'étais au collège et au lycée, mais il a été très fier que je devienne ingénieur et il a eu beaucoup de mal à l'idée que je quitte ça. Du côté de ma mère a fait des études, mais quand elle a rencontré mon père travaillait et elle a pu nous élever et faire des études. Parce qu'avant, en fait, elle n'a pas eu son bac et elle était assistante de direction. Puis elle a fait aussi, elle était primeur légumes, elle a essayé d'être hôtesse de l'air. Enfin, elle a fait plein de petits boulots. Et à 30 ans, elle a rencontré mon père. Ils m'ont eu. Et en même temps, elle a pu passer son bac en candidate libre et faire des études de psychologie. Et elle a eu un master aménagé parce elle nous élevait avec mon frère. Et donc, elle a fait son master en près de 10 ans plutôt que 5 ans. Et après, elle a passé le concours de la fonction publique. Donc elle est devenue fonctionnaire. Et donc j'ai grandi dans ce truc un peu bizarre où on ne sait pas trop de quelle classe sociale on vient. Et donc moi j'ai grandi avec ça et avec cette charge un peu de devoir, enfin, devoir prendre la revanche quoi, et de devenir une véritable personne insérée et indépendante. J'étais le premier enfant de mes parents. En fait j'ai fait une école d'ingé par hasard. Parce que j'ai eu un collège et un lycée très difficiles, avec des très mauvaises notes. Et en fait, quand je suis arrivée au lycée, je suis arrivée par hasard en scientifique. Enfin, en fait, le conseil de classe n'avait pas accepté que je passe en scientifique. Mais ma mère a trouvé un lycée où il restait une place en scientifique. Et du coup, j'ai fait une première S, alors que j'avais 5 de moyenne en maths. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Et en fait, mon voisin, on avait déménagé, j'ai beaucoup déménagé, et mon voisin, en fait, était issu d'une famille bourgeoise, là pour le coup très bourgeoise, de parents ingénieurs et médecins. Et comme on faisait le chemin pour aller à l'école ensemble, enfin au lycée, on a eu une amitié très forte qui s'est construite et j'ai pu bénéficier de, je dirais, l'accompagnement éducatif de sa famille qui m'a poussée à faire une classe prépa. Si je n'avais pas rencontré cette personne, je n'aurais jamais fait ça.
Mais là, tu as l'air de dire ça comme si c'était pour avoir les capacités, les notes, en fait, pour pouvoir accéder à une prépa. Mais en termes d'envie, est-ce que tu te souviens pourquoi est-ce que tu t'es lancé là-dedans?
En fait, oui, il y avait la question des capacités, des notes. Moi, comme j'ai été vue un peu comme une enfant difficile, très rebelle, j'ai eu un rapport très conflictuel avec l'autorité très tôt parce que j'ai subi beaucoup de violences sexistes de la part des institutions, de mes camarades de classe, des familles de mes camarades de classe, hein, de beaucoup de personnes. Donc j'étais assez marginale, assez marginalisée. Enfin, je traînais avec beaucoup de personnes marginales, enfin, en fait, avec des vécus traumatiques dans les familles. Et donc, moi, je n'avais pas spécialement envie d'être ingénieure. Je voulais juste qu'on me lâche la grappe, en fait. J'avais juste envie qu'on me laisse tranquille et qu'on arrête de me considérer comme étant une personne... une personne bête ou une personne qui vaut rien. J'avais envie que mes parents aussi me donnent un peu de liberté. Et en fait, je me suis aperçue qu'en ayant des meilleures notes, en plus, ça me plaisait. J'ai appris à aimer les maths, c'est la physique. En fait, j'étais reconnue par rapport à ça. J'avais vraiment, en ayant des bonnes notes en maths et en physique et en chimie et en sciences, mon entourage m'appréciait plus. Et j'étais reconnue, et donc je me suis dit go. En fait, je me sentais intelligente, et donc j'ai fait ça par besoin, parce que c'était ma façon d'être reconnue socialement. J'en avais pas trop d'autres à ce moment-là.
Et donc, tu as fait une prépa scientifique avant d'intégrer une école d'ingénieur ?
Ouais, c'est ça. J'ai fait une prépa scientifique, j'ai fait 3 ans. Et déjà là, j'avais déjà eu des désillusions par rapport au système. Par rapport à ce que je vivais quand j'étais au collège et au lycée. Mais déjà en prépa, il y a eu des choses très violentes qui se sont passées et qui m'ont fait ressentir... qu'il y avait un truc qui clochait, en fait.
Dans le fonctionnement de l'école, de la,
ouais,
du lycée, quoi,
et de la classe. Prépa, quoi. Ouais. Ouais, on a... j'ai ressenti très fort la question de la compétition. Enfin, il n'y avait pas trop d'entraide dans ma classe. Il y avait vraiment celles et ceux qui allaient être en classe étoilée, c'est-à-dire les meilleurs des prépas, et celles et ceux qui n'en faisaient pas partie. Et donc moi, je voulais absolument faire partie. J'ai eu beaucoup de mal. Quand je suis passée en classe étoile, ça a été la dégringolade. Et là, en fait, je me suis sentie complètement abandonnée et déclassée, en fait. Et ça a été très difficile parce que, je dirais, mon moment de gloire, il a duré peu de temps, en fait, entre la première, la terminale et la première année de prépa, où enfin, j'avais la reconnaissance extérieure. Et ça y est, je retombe dans les derniers de ma classe, et ça a été compliqué. Et aussi, ce que les profs nous renvoyaient, nous disaient qu'on était l'élite de la société, alors qu'en fait, la façon dont on se comportait les uns les autres, c'était vraiment malsain, quoi. Et donc, se dire, mais attends, en fait, se comporter de façon malsaine humainement, c'est ça, faire partie de l'élite. Donc, c'est des valeurs élitistes hyper problématiques. On a eu un camarade qui a mis fin à ses jours. Il n'y a eu aucune prise en charge psychologique, aucun temps d'écoute. On a continué les cours comme si de rien n'était. Il n'y avait pas de prise en compte de notre fatigue, de notre épuisement physique, d'aménagement des horaires. Il y avait vraiment celles et ceux qui pouvaient aller à Centrale et Polytechnique et voilà. Et celles et ceux qui avaient accès aux écoles de moindre rang. Et je l'ai ressenti très fort. Par exemple, pendant un cours de maths, je me souviens, il y avait une prof, elle ne voulait pas qu'on mange, qu'on boive ou qu'on aille aux toilettes pendant les cours. Donc, on était vraiment déjà dans des privations et de l'obéissance qui était... j'ai trouvé vraiment malsaine. C'est pour ça que quand j'ai dû choisir mon école d'ingénieur après une 5,5, j'ai choisi de prendre une école de fonctionnaire. Parce que déjà, à ce moment-là, je me suis dit, mais je ne veux pas bosser pour le privé. C'est un monde de requins, je veux pas. Et donc, j'ai choisi une école de fonctionnaire, en fait, à ce moment-là. Ça me permettait d'être payée, ensuite, pendant mes études. J'étais déjà boursière, j'avais déjà la CAF. Donc, ma solution, c'était école de fonctionnaire. Comme ça, je suis tranquille et indépendante à 21 ans.
Ce que tu me disais avant l'enregistrement, et que tu as un peu exposé ici, c'est que la critique que tu portais sur la classe prépa, c'était à la fois sur l'absence de soins et que cette question n'était pas évoquée, et aussi la question de l'élitisme et de la compétition. Je crois que tu m'avais aussi parlé de système de classe. Peut-être qu'il y a des différences entre les gens en fonction de quelle classe sociale on appartient. Est-ce que tu as vu ça plutôt en prépa ou plutôt en école d'ingé, ou je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, en fait.
Moi, pendant ma prépa, les amis chers que j'ai eus en prépa, c'était des personnes pour qui la prépa et l'école d'ingénieur étaient un moyen de s'arracher à une classe plutôt populaire. Et en fait, ce qui était difficile, c'est qu'il y avait énormément d'enjeux pour nous, en fait, à réussir. Si on ne réussissait pas, en fait, on était renvoyés au milieu un peu d'où on venait. Et donc, je voyais la souffrance psychologique que ça impliquait, c'est-à-dire d'avoir une mauvaise note ou pas. Et j'ai vu aussi, c'était surtout entre meufs, la façon dont des mecs autour de nous, de notre classe, étaient de milieux bourgeois. Et eux avaient beaucoup plus de légèreté en fait à réussir, ils avaient beaucoup plus de moyens. Et donc la façon aussi dont on essayait de s'agripper à ces mecs pour s'élever socialement. Enfin, en fait, c'est hyper malsain comme truc, mais c'était un peu notre seule possibilité à ce moment-là de s'échapper, aussi de porter un peu les intentions familiales. Après, moi, comme j'étais dans une école, après j'ai intégré une école en génie urbain de fonctionnaires. J'avais plus des personnes aussi qui venaient de l'université. Donc, j'ai pas trop ressenti ces problématiques classe. Enfin, c'est-à-dire que je venais quand même enfin, j'évoluais quand même avec des personnes qui avaient des parents qui vivaient en banlieue, qui n'avaient pas fait d'études. En école d'ingé. Mais il y avait tous cette intention de il faut qu'on s'élève socialement. Et donc il faut qu'on réussisse via l'école d'ingé et avoir une place dans la société, quoi.
Est-ce que tu te souviens du lien que tu faisais entre, que ce soit au moment de la prépa ou en école d'ingénieur, avec la finalité du métier, du fait que en fait tu allais être formé pour devenir ingénieur? Est-ce que tu savais en fait ce que ça veut dire ou à quoi servait, enfin, quel était le but de l'ingénieur au moment de ta formation?
J'ai plus trop le souvenir de ce que je savais du métier d'ingénieur quand j'étais en prépa ou en école. Je me souviens que pour choisir mon école, j'avais contacté des ingénieurs pour leur demander ce qu'elles faisaient et savoir combien elles étaient payées et combien d'heures par semaine elles travaillaient. Et clairement, ça m'avait horrifiée en fait. J'avais trouvé ça nul. En fait, j'avais contacté aussi des meufs. Et c'est vrai qu'il y avait une personne, bah, ça faisait 10 ans qu'elle bossait et elle travaillait genre 50 heures par semaine. Elle travaillait dans un truc de voiture, je crois. Et en fait, elle s'occupait de la gestion des pièces. Je ne me souviens plus exactement quoi. Mais j'étais horrifiée par l'ancienneté, autant d'études, le temps de travail pour en fait, un salaire que je ne trouvais pas. Enfin, mirobolant par rapport à tout ça, tout ce qui était un peu promis. C'est vrai qu'on nous miroitait beaucoup de choses, en fait. Et c'était un peu la carotte, quoi. On avait envie de gagner beaucoup parce que c'était un peu ça, le modèle de réussite, quoi. Je savais que le métier d'ingénieur, c'était de faire de la technique, donc de concevoir des choses. Quand j'ai été à l'école, clairement, on apprenait à organiser la ville, donc dans tout ce qui était compétences de transport, d'eau, de bâtiments, de déchets, donc marché public, tout ça. Mais c'est vrai que moi, je me souviens, ma mère, elle m'avait dit à Vivi, fais ces études-là parce qu'on va te dérouler le tapis rouge après. Enfin, il y avait vraiment ce truc d'élite, quoi, qui, un peu comme si on était les élus, comme s'il y avait quelque chose, en plus, qui nourrit quelque chose de très classiste, en fait, de naturel, comme si c'était nous qui étions choisis pour réaliser quelque chose de grand. Enfin, ça rappelle vraiment même un imaginaire un peu colonial, quoi, de nous, on est les personnes sachantes et les autres, on les administre, quoi. Il y a vraiment ce truc-là, et aussi d'apprendre à aimer ça. Et, enfin, c'est même pas apprendre à aimer ça, c'est ne pas questionner ça. Genre, c'est naturel, c'est normal, c'est OK. Donc, après, il en découle plein d'envies de carrière et de se sentir légitime à être à des postes de pouvoir. Par contre, j'ai eu une grosse désillusion quand j'ai commencé mon taf après l'école.
Alors, c'est ce que je voulais te demander, ouais. Dans quoi tu as commencé à travailler?
Comme j'étais fonctionnaire, en fonction de mon classement à l'école, j'ai accédé à un poste dans la collectivité territoriale où j'allais travailler. Et en fait, j'étais pas bien classée. Déjà là, à l'école, il y avait des injustices, moi qui m'ont rendue assez ouf et que j'ai voulu dénoncer. Bah déjà, des profs sexistes, où je partais de cours, où je gueulais, et en fait, il n'y avait rien qui changeait, on me prenait pour une sorcière, quoi. Enfin, aussi, moi, quand j'étais à l'école, c'était entre 2012 et 2015, donc ce n'est pas la même période que maintenant, où les questions féministes, elles étaient beaucoup moins rendues publiques. Et on avait aussi en fait, des injustices par rapport aux notes qu'on recevait en fonction des projets dans lesquels on s'impliquait à l'école. Et par exemple, il y avait des projets qui étaient bien plus valorisés que d'autres, alors qu'ils nécessitaient moins de travail, mais plus de visibilité. Enfin, vraiment déjà des injustices, en fait, qui sont typiques, caractéristiques du monde du travail, quoi. Et donc, j'avais dénoncé ça en disant, mais en fait, c'est dégueulasse. Et on m'avait répondu, mais en fait, on vous habitue au monde du travail. C'est ça, en fait. Donc, en fait, acceptez-le, c'est le monde du travail. Et j'avais trouvé ça complètement absurde de se dire, OK, la situation est merdique, mais c'est comme ça, donc il faut que tu t'habitues à cette situation merdique. Enfin, il n'y avait aucune intention de, tu sais, de révolutionner un peu le truc, quoi. Oui, la situation est merdique, on va essayer de changer ça, en fait. Ah non, non, on s'y soumet. Et donc, quand j'ai eu la liste de postes et mon classement et que j'ai vu le poste auquel j'étais affectée, bah, en fait, qui ne correspondait pas du tout à tout le savoir-faire que j'avais appris aux 6 ans d'études que j'avais faites, où j'avais beaucoup travaillé, et au final, je faisais de l'administratif, quoi. Des marchés publics, et c'était l'administratif. Et il y a eu une grosse désillusion aussi, où je me suis dit, mais en fait, j'ai fait tout ça pour ça. C'est vraiment du foutage de gueule. Et j'ai commencé à... J'ai remis ça en question dans la collectivité où je suis arrivée, où je leur ai dit, mais en fait, moi, il est hors de question que je reste plus d'1 an chez vous. Je veux me barrer. Et donc là, j'ai commencé à me syndiquer, en fait. Parce qu'ils ne voulaient pas me laisser partir. Ils voulaient m'obliger à travailler à leur poste de merde, quoi. Donc ça a été un peu ça, la désillusion, le début de... Enfin, désillusion sur mon premier poste. Et après, mon dernier poste avant la désertion, enfin, du coup, j'ai changé de poste. Et je voulais travailler sur un poste à portée environnementale dans la gestion des déchets. Et en fait, j'étais trop contente au début. En plus, c'était un service assez prestigieux dans la collectivité dans laquelle j'étais, où je pouvais collaborer avec plein de personnes hautes placées dans les institutions. Et donc, je me disais, en termes de carrière, c'est génial, je vais pouvoir progresser. Parce qu'il y a aussi cette compétition entre les personnes qui sortent de promo. On continue à se suivre et à savoir si l'élévation sociale, elle est la même pour tout le monde ou s'il y en a qui dépassent les autres. Donc, c'était quelque chose d'assez lourd en moi. Et à chaque fois que je n'y arrivais pas assez que les autres, je me disais, ah, mais ça, c'est parce que, en fait, je ne suis pas vraiment une ingénieure. À la base, je suis une rebelle du collège, quoi. Enfin, il y a vraiment ce truc que je gardais. Et donc, quand j'ai commencé mon poste d'ingénieur plutôt à portée environnementale, hein, dans la gestion des déchets, j'y croyais vraiment. Et après, ça a été de désillusion en désillusion, plutôt sur la façon dont l'État organise le fait qu'on aille dans le mur, quoi.
Mais quand tu dis « t'y croyais vraiment », tu veux dire d'un point de vue l'impact environnemental du métier, quoi. Tu veux dire que tu t'es dit « en fait, ce métier-là, il a aussi un sens ». Sur les effets environnementaux, quoi, c'est ça?
Ah ouais, j'étais persuadée, donc j'étais particulièrement dans le tri des déchets, donc j'accompagnais les usagers à mieux trier leurs déchets, à leur donner les moyens de trier leurs déchets, à faire de la sensibilisation. L'objectif, c'était d'augmenter la quantité et la qualité du tri. Et en fait, au fur et à mesure, je voyais à quel point, en fait, c'était pas possible de l'améliorer considérablement en quantité et en qualité, parce que derrière, il y avait des enjeux européens et nationaux et industriels et fiscaux, et des questions de débouchés du recyclage, et des questions de où va l'argent des subventions, de où va l'argent, comment l'argent circule entre les collectivités, les institutions semi-publiques privées, et les industriels, comment ça circule via les marchés publics, enfin, l'argent public qui circule des collectivités aux industriels via les marchés publics. Enfin, en fait, je me suis aperçue que rien n'allait changer. Et en fait, que ma seule force de frappe, entre guillemets, c'était soit j'attends 15-20 ans et peut-être qu'un jour, je pourrais dire à mon directeur, et il l'entendra, que c'est pas cool de faire ça. Parce que quand je le faisais, je me faisais rigoler au nez. Et en fait, ça pouvait me porter préjudice en termes de carrière. Et j'ai vu même d'autres directrices se faire virer de leur poste quand ils ouvraient trop leur bouche, en fait. Et moi, en fait, ma seule force de frappe, c'était être sympa avec mes alternants et mes apprentis, quoi. Et avec mon équipe. Voilà. Être cool avec mon équipe, c'était la seule chose que je pouvais faire. C'est nul, en fait. Pour moi, ça n'avait aucun sens.
Est-ce que tu te souviens de rencontres particulières, d'histoires, d'anecdotes de moments qui t'ont fait penser c'est quand même un peu bizarre ce que je suis en train de faire, ou c'est quand même bizarre ce que je suis en train de faire, dans le sens c'est quand même bizarre l'action qu'on essaye d'accomplir, et ou bien c'est quand même bizarre le milieu dans lequel on travaille.
Il y en a eu plein. En fait, il y en a eu plein, à plein d'échelles différentes. Ce qui était, par exemple, bizarre pour moi, et c'était la façon dont je devais me grimer pour aller au travail, esthétiquement, c'est-à-dire devoir correspondre à des codes esthétiques de tenue, de coiffure, de chaussures, de posture, comment je vais mouvoir mon corps, la discrétion que je vais avoir, le vocabulaire que je vais avoir, la façon dont je vais, de quoi je vais parler avec les gens. C'est épuisant en fait de devoir tout contrôler en permanence et d'apprendre les codes en permanence, qui sont des codes en fait hyper malsains et pas du tout spontanés. Toute ma vie était organisée autour de mon travail, c'est-à-dire mon travail va déterminer l'emplacement géographique dans lequel je vais vivre. En fonction de mon salaire, ça va déterminer dans quoi je vais vivre, comment je vais pouvoir me chauffer, comment je vais pouvoir me nourrir. Mon travail va conditionner mes relations amoureuses parce que c'est le temps que je vais avoir, en dehors de mon travail et avec ce temps qui me reste, que je vais pouvoir consacrer du temps à mes relations amoureuses, mes relations amicales, mes relations, les relations humaines. Enfin, ça conditionnait tout. Donc ça, je trouvais ça absurde. J'ai jamais compris pourquoi ça devrait être comme ça, en fait. C'est absurde. Et aussi pendant mes périodes de, par exemple, de congé, en fait, j'étais tout le temps en train de penser à la reprise. Donc, j'avais jamais la possibilité de vraiment incarner le moment off. La façon aussi dont ça façonne les désirs et les projets de vie. Mes projets de vie, c'était faire carrière. Et autour de moi aussi, c'est aussi une culture collective où avec mes amis, quand on se retrouvait, on parlait surtout du taf. De la carrière. Donc, et ça, c'est vraiment... ça, c'est un détail, mais c'est aussi la façon dont les gens vont se parler au travail, avec des trucs méga sexistes, des fois. Ou des... Ah, je me souviens... J'ai assisté à des discussions hyper classistes envers les éboueurs, envers les personnes qui sont dans les centres de tri et qui trient les déchets.
Et à ce moment-là, travailler pour vous ou en lien avec vous, ou ça, c'était en rapport avec le boulot, quoi?
Moi, en fait, j'étais au bureau, quoi, chez les ingés qui vont organiser le travail et les directives, en fait, des personnes qui sont sur le terrain. Et oui, dans le cadre de mon travail, j'ai assisté à ça. Et aussi, par exemple, quand le préfet de police, il décidait qu'il fallait évacuer des migrants, enfin, c'était pas moi, mais dans mon service, on envoyait des éboueurs jeter les affaires des personnes migrantes. Et on y allait... en combinaison intégrale pour pas s'infecter, quoi. C'est horrible. Enfin, c'est hyper malsain. Donc tout ça, ça se passe sous mon nez au quotidien, en fait. Je bossais environ 45 heures par semaine, donc tout le temps. Et puis, à qui va être le plus présent, qui va faire le meilleur travail, donc compétition encore, qui va avoir la reconnaissance hiérarchique. Donc il y avait beaucoup de ça. Puis là, je parle même pas du fond du sujet, c'est-à-dire mon métier en tant qu'ingénieur environnement, quoi. Je parle juste du travail, en fait. Mais après, d'un point de vue environnemental, c'est assez long, mais le monde de la gestion des déchets du tri des déchets n'a pas vocation à améliorer quelque chose d'un point de vue environnemental. En fait, le système est tellement lourd pour pouvoir recycler, trier les déchets, qu'en fait, on produit quasiment... Après, je n'ai pas de chiffres. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à trouver d'études là-dessus. J'en ai jamais trouvé. Mais l'énergie grise de la gestion des déchets, c'est-à-dire le cycle de vie, c'est toute l'énergie nécessaire, globalement. Enfin, le bilan énergétique, le bilan empreinte carbone et le bilan même impact social, biodiversité, environnement de la gestion des déchets, je ne suis même pas sûre qu'il soit positif. Enfin... Parce qu'il faut tellement, il y a un système tellement énorme, industriel, pour organiser la gestion des déchets, pour gérer les déchets, que en fait, ce qu'on économise en ressources, en matériaux, en énergie, en empreinte carbone, en recyclant les déchets, Bah, je ne suis pas sûre qu'il soit. En fait, il est dépensé en organisant la gestion, enfin, en gérant tout ça. Je ne sais pas si je suis claire par rapport à la collecte, par rapport à concevoir les poubelles, transporter les déchets, faire des usines de traitement. Enfin, c'est un truc industriel, quoi.
Mais alors, je suis pas sûr d'avoir compris, mais est-ce que tu penses que si on avait un fonctionnement complètement linéaire sur la gestion des déchets, plutôt que essayer d'avoir un fonctionnement aujourd'hui plus ou moins circulaire avec une partie de recyclage, le fonctionnement linéaire serait limite plus, enfin moins dégueulasse, quoi?
Linéaire, c'est-à-dire juste ordures ménagères?
Linéaire, je veux dire, on produit, on consomme, on jette, on reproduit, on consomme, on jette.
Non, je dis pas ça. Non, non. Enfin, je sais pas. En fait, j'arrive jamais réussi à trouver d'études là-dessus et c'est vraiment trop bizarre parce que j'en ai demandé beaucoup. Enfin, j'ai recherché pendant que j'étais au taf et tout parce que c'était quelque chose qui m'intriguait. Je disais, mais est-ce qu'on fait tout ça par but environnemental? Est-ce que réellement ça a un impact environnemental tout ce qu'on fait? Et c'était très flou. À chaque fois, il y a plein de facteurs qui sont pas dedans. Enfin. J'ai pas la réponse à ça. Par contre, la certitude, c'est que il n'y a pas d'intention réelle de réduire les déchets. Parce que le déchet est un business. Et en fait, pour moi, le recyclage, c'est un pansement. Le tri, le recyclage, c'est un pansement. Parce que, en fait, si on réduit trop les déchets, il n'y a plus d'entreprise de collecte, il n'y a plus d'entreprise qui va créer des poubelles, il n'y a plus d'entreprise de recyclage.
Mais là, tu parles de géants comme Veolia et Suez, en fait.
Ouais, par exemple, bah, c'est du pain béni en fait. Quand on nous dit oui, trier plus de bouteilles plastiques, bah, pour trier plus de bouteilles plastiques, il suffit qu'on mette plus de bouteilles plastiques sur le marché. On faisait des communications un peu comme ça. Oui, cette année, on a trié plus de bouteilles plastiques. Ouais, mais en fait, c'est juste qu'il y a eu plus de bouteilles plastiques sur le marché, enfin, dans les poubelles, quoi. Donc c'est normal qu'on en trie plus, ça n'a pas de sens. Alors, tout n'est pas comme ça, hein. Je veux pas faire. C'est pas. Tout n'est pas. De la désinformation, mais c'était plutôt la façon dont aujourd'hui, enfin ce qui m'a le plus marqué, c'est que les industriels de l'emballage aujourd'hui payent une taxe pour participer au traitement de des emballages qu'elles mettent sur le marché. Et en fait, cette taxe, elle est donnée à un éco-organisme, et cet éco-organisme va redistribuer cet argent aux collectivités. Sauf qu'en fait, bah déjà, cet éco-organisme, plus les emballages sont délétères, ont une mauvaise recyclabilité, plus la taxe donnée à l'éco-organisme va être importante. C'est-à-dire, plus tu produis un déchet qui n'est pas recyclable, plus tu vas payer une taxe importante à l'éco-organisme. Ce qui paraît logique. Donc, en fait, c'est intéressant d'avoir des déchets qui ont une mauvaise recyclabilité. Investir de l'argent dans la recyclabilité des produits, genre études et recherches. Je sais plus quels sont exactement les bons mots, mais ça fait 3 ans que je suis partie, donc je commence à oublier. Mais par exemple, c'était plus intéressant d'investir dans la recherche, dans le pôle recherche un peu de l'entreprise. Et donc, en fait, c'est des exonérations fiscales. Et donc, c'est de l'argent des fois en moins. Par exemple, tu vas moins donner à l'éco-organisme ou tu vas moins donner aux collectivités si tu investis dans ton pôle recherche de ton entreprise. Parce qu'en fait, des fois, c'est du bullshit. Ta recherche, en fait, c'est juste pour le plaisir de rechercher des trucs, quoi. Ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, les objets de recherche, des fois, sur la recyclabilité des produits étaient hallucinantes, quoi. Enfin, en fait, on est en urgence environnementale et sociale et en fait, l'argent, il ne doit pas aller là. Et c'était vraiment ce truc de où va l'argent nécessaire, enfin qui doit aller aux collectivités. Et bah, en fait, l'argent qui nous était dû de la part des l'éco-organisme, et donc de l'argent des industriels, et donc l'argent des citoyens, enfin du peuple, et ça nous revenait sous condition aux collectivités, imposées par l'État, par l'éco-organisme, par l'Union européenne. Et ces conditions, donc on n'était pas maître de les choisir. C'était vraiment imposé et du coup, ça nous obligeait à mettre en place des projets de gestion des déchets dans notre collectivité qui n'étaient pas forcément adaptés aux besoins. Mais ça mettait en valeur la collectivité, ça mettait en valeur telle ou telle entreprise. Et du coup aussi, quand on mettait en place ces projets, bah, via des marchés publics, on redonnait cet argent à des industriels. On retrouvait les mastodontes du côté des industriels qui mettaient sur le marché des emballages. Et au niveau des eux qui allaient avoir l'argent public pour faire de la collecte ou pour créer des poubelles ou donc en fait l'argent il transite par les collectivités mais c'est toujours les industriels qui les ont quoi. je sais pas si c'est hyper clair, mais...
Si, si, c'est clair, ouais.
C'est vraiment un... c'est un peu une, c'est une hérésie. Et il y a quand même pas mal de ressources sur Internet, notamment avec le communiqué de la Boucle Verte, qui est une ex-start-up de l'économie circulaire, qui avait dénoncé ça, en fait. Cette grosse magouille...
J'ai l'impression qu'il y a un truc de que finalement les pouvoirs publics sont là dans ce secteur pour accompagner le développement économique des boîtes et faciliter en fait le fait de produire quoi.
Complètement. C'est ça aussi qui m'a bouleversée, c'est que j'avais choisi d'être fonctionnaire et de travailler dans l'environnement parce que je savais déjà que c'était la merde et que je voulais pas travailler pour les entreprises privées et dans un secteur autre qu'environnemental. Et en fait, je me suis aperçue que par mes missions quotidiennes en tant qu'ingénieur, j'alimentais le greenwashing, j'alimentais ce système de transmission du capital économique, qu'en fait que l'État est juste une passerelle de flux, enfin vraiment, ça accompagne les flux financiers d'entreprise en entreprise, de mastodonte en mastodonte. C'est pas des petites entreprises, c'est très rare. Et donc, c'est vrai que je me suis dit à ce moment, mais attends, qu'est-ce que je peux faire de plus, en fait ? C'est que je suis ingénieure en environnement pour l'État, pour la fonction publique. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? J'avais pas de solution, quoi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partir.
Tout à l'heure, tu disais que, en fait, pour aller au boulot, tu avais besoin de te grimer, de te déguiser. Est-ce que tu as eu, pendant un temps, un genre de double vie ? Une vie dans ton boulot avec certains proches, et puis une autre où tu as commencé à creuser dans d'autres univers, d'autres milieux.
Ce concept de double vie me parle beaucoup, parce que j'avais vraiment l'impression d'être dans le mensonge en permanence entre mes convictions. Alors, j'étais plus dans la théorie qu'autre chose. Je lisais beaucoup, j'allais à beaucoup de conférences, de débats, un peu sur des trucs théoriques. Je n'avais pas forcément de réseau, mes potes n'étaient pas du tout là-dedans, donc j'étais assez seule et je n'allais pas forcément dans des assos parce que j'étais crevée en fait, j'étais crevée. Mais dans mes relations amicales et proches, j'avais vraiment l'impression de, quand je suis au taf, je suis une certaine personne et je dois tenir, comme au théâtre, quoi. J'étais vraiment comme au théâtre. Et le soir, en fait, j'étais épuisée. En fait, ça me mettait vachement en tension aussi. Et ça me transformait. C'était pas évident. Mais j'avais vraiment ce sentiment de devoir cacher qui j'étais vraiment au travail, quoi. Et d'avoir cette double vie-là. Par contre, je me suis jamais autorisée. En fait, j'arrivais pas. La dissonance était trop grande. Et donc, je me suis pas autorisée à vraiment militer activement avant de quitter mon travail. Parce qu'en fait, comme j'étais fonctionnaire aussi et que que je travaillais avec des éboueurs, les agents de la collectivité où j'étais, ils sont partout sur le terrain, quoi. Et donc, j'avais trop peur de faire des actions et être vue sur le terrain par les mêmes personnes avec qui je travaille et que je suis censée diriger, quoi. Enfin, donc, je le faisais pas.
Et comment tu as quitté ton boulot ? Qu'est-ce qui a déclenché un peu ça ?
Ce qui a déclenché ça, c'est en fait quand j'étais en école d'ingé, j'ai eu la chance de pouvoir faire un échange universitaire à l'étranger. En fait, j'en ai fait deux. Dans le premier que j'ai fait, donc j'étais à l'université à Rio de Janeiro pendant 6 mois. Et en fait... C'était déjà une forme de désertion, en fait. Je me barrais déjà un peu de l'école d'ingé, quoi. Parce qu'en réalité, on n'avait vraiment pas beaucoup de cours. Et en fait, j'ai rencontré énormément de personnes de plus de 30 ans qui ne bossaient pas, enfin, qui ne bossaient pas, qui n'avaient pas un métro-boulot-dodo et, par exemple, qui vivaient sur un voilier et qui voyageaient en voilier. Et c'était leur vie, quoi. Et qui gagnaient très peu d'argent, qui faisait des petits boulots, enfin, qui vendait des trucs sur le marché, qui faisait, je sais pas, des métiers manuels. Et ces personnes étaient heureuses, en fait. Après être revenue du Brésil, mon père, qui voulait absolument que je fasse un stage en entreprise parce que j'allais dans la fonction publique après. Et donc, je suis allée faire un stage là-bas, à Londres. Et là aussi, ça a été un... l'horreur, quoi. Open space, chantier de construction, que des mecs, genre des personnes très, très, qui exercent beaucoup de pouvoir sur. Et en fait, j'ai enchaîné les deux, enfin Brésil puis Londres, enfin deux salles, deux ambiances, et je savais ce que je voulais, en fait, c'était dit. Et donc, j'avais en souvenir ça, et donc, je m'étais promis de partir avant 30 ans, parce que je savais qu'après, ça allait être très compliqué de partir, en fait, parce que bah, on est pris dans le tourbillon, quoi.
Il y a un engrenage financier par exemple, ou des achats, ou des trucs comme ça, quoi. Quand tu parles de tourbillon, c'est ça que tu veux dire?
Bah, le tourbillon, c'est plus de commencer à adopter les codes et le raisonnement et le confort aussi et le pouvoir sûr, parce que c'est vrai que dans les carrières d'ingénieur, c'est pas juste on conçoit des projets, c'est aussi adopter une vision du monde où on exerce du pouvoir sur les autres personnes, que ce soit matériel, culturel, économique. Et en fait, je ne sais pas si on pourrait dire, si je peux dire, on y prend goût, mais en fait, je ne vois pas comment on peut continuer en tant qu'ingénieur sans échapper à ça. Et en fait, je voyais que je pouvais m'enfermer vite là-dedans, en fait. Bah, qu'en fait, le poste d'après qu'on me proposait, on commençait à me proposer un autre poste avec plus de responsabilités, mieux payé, enfin tout ça. Et je savais que ça allait me donner plus de pouvoir et que j'allais avoir plus de mal à m'en dépêtrer, quoi. Et donc je me suis dit, il faut que je me barre parce que là, sinon, je vais jamais en sortir, quoi. Et je vais devenir une prédatrice en col blanc, quoi.
Est-ce que tu veux nous dire comment ça a été sur le plan émotionnel? Parce que finalement, il y a eu un avant et un après, quoi. T'as eu l'impression que c'était assez brutal?
Ouais, ça a été brutal parce que j'ai vraiment voulu faire les choses bien quand même quand je suis partie. J'avais fait un pot de départ. J'avais invité beaucoup de personnes avec qui je bossais, notamment d'équipe terrain aussi. C'était important pour moi aussi de, en fait, de. Ce que je critique, c'est quand même un système et c'était pas forcément les personnes avec qui je travaillais au quotidien. Et j'avais aussi, je pense, cette injonction à ne pas trop faire de vagues, quoi. J'avais peur que ça puisse me retomber dessus. J'avais très peur. Et en fait, ouais, ça a été compliqué parce que je me suis sentie tout de suite déclassée. En fait, j'ai senti la puissance du système, parce que je me suis sentie comme une merde, quoi. J'avais l'impression d'être nulle. Je me suis rendu compte à quel point je me définissais par mon travail, quoi, et par mon statut social, parce que en le quittant, j'avais l'impression de plus rien valoir, quoi. Et donc j'ai mis du temps à aussi savoir qui j'étais en dehors de mon travail, quoi. Savoir qui j'étais en dehors d'un diplôme. Parce que c'est pas juste un diplôme. On dit pas je travaille dans l'ingénierie. On dit je suis ingénieur. C'est pas du tout la même chose en termes d'identité. Et ça m'a ouais, mis du temps. Enfin, ça m'a pris du temps de déconstruire ça, de me re-aimer, même en n'étant pas quelqu'un dans la société capitaliste et libérale, en fait. Ça a mis du temps.
Est-ce que tu penses que c'est aussi lié à la façon dont ça a été perçu par ton entourage? C'est ce qu'on disait au début, la question de la famille, peut-être? Je sais pas si tu veux nous parler de ça ou.
Bah, du côté de mon père, ça a été compliqué. Je l'ai senti vraiment désemparé. J'ai senti une peur de sa part que il m'a dit ah mais tu vas finir à la rue en fait, mais en me disant c'est ta faute, c'est toi qui as choisi. Donc c'était vraiment violent, quoi. Genre, tu peux être ingénieur et rien d'autre, ma fille, quoi. C'était dur. Qu'est-ce que le système aussi nous fait dans nos relations intrafamiliales, quoi? Parce que ça, c'est vraiment le fruit d'un discours, quoi, et du coup qu'un père peut dire à sa fille. Ça vient se jouer vraiment dans l'intime, en fait. Et après, ma mère, elle m'a toujours soutenue. Et elle m'a soutenue matériellement. C'est-à-dire que je pouvais aller dormir dans son salon entre deux vadrouilles. Et ça, c'était quand même très précieux. Même si c'était pas hyper confortable, le fait d'être dans son salon, quoi. Et pas. C'est vrai que j'ai pas la chance, comme d'autres personnes que j'ai vues dans les schémas de désertion, peuvent rentrer chez leurs parents, qui sont pas divorcés, qui ont une grande maison avec une chambre. C'est pas la même chose, quoi, que de rentrer en banlieue dans le salon de sa mère, quoi. Après, par contre, ça a été plutôt Ce qui a été compliqué, c'est plutôt de la part de mes anciens camarades d'école avec qui ça a été violent parce que je ne me suis pas sentie soutenue et surtout, il y en a beaucoup qui ont arrêté de me parler, quoi. Après, je pense que c'est aussi parce que ce que je leur renvoyais était insupportable. En gros, je leur disais, mes potes qui travaillaient chez Vinci et Colas, je leur disais, enfin, je leur disais pas directement, mais par exemple, je faisais un reportage contre un grand projet inutile et imposé par Vinci, et je disais, il faut, je dénonçais ça dans le reportage vidéo que je faisais. Indirectement, mes potes le voyaient alors qu'elles travaillaient dans ces boîtes-là. Et donc, des fois, il y en a qui m'ont dit, mais en fait, tu crois que tu es une meilleure personne parce que tu arrêtes de bosser comme ingénieur, alors que nous on continue, c'est abusé, enfin, on n'a plus envie d'échanger avec toi. Donc ça a été compliqué, ouais.
Je crois que dans ton livre, tu disais que tu pensais que le processus de désertion était réversible. Et je crois qu'après, tu disais que finalement, tu avais changé d'avis.
Ouais, j'ai changé d'avis. Après, je pense que c'est pas la même chose pour tout le monde. Il n'y a pas un schéma de désertion. Et il est vraiment propre à notre parcours émotionnel, relationnel, vraiment quel amour nous a porté les parents, nous ont porté nos parents, quel est le confort économique, aussi nos amis, est-ce qu'on a beaucoup de potes, est-ce qu'on déserte avec nos potes ou pas, c'est pas la même chose quoi. Bah, je trouve que c'est irréversible au sens où je sais qu'aujourd'hui j'ai perdu énormément de codes du milieu de l'ingénierie. Et que si je vais y retourner, ça va me demander beaucoup de travail, de réintégration des codes. Et j'ai perdu des choses. Enfin, clairement, j'ai perdu de l'avancement de carrière. J'ai perdu. Enfin, aujourd'hui, maintenant, ça fait 3 ans. En 3 ans, mes anciens camarades, si je retourne maintenant, c'est mes supérieurs, en fait. Enfin, c'est plutôt dans le devenir à quoi je parviens ou pas. C'est-à-dire, en fait, ma vie, elle sera pas la même parce que je vais pas avoir un niveau de vie confortable. Enfin, en fait, vraiment, je trouve que la carrière, l'ingénierie, c'est quelque chose qui se construit sur le long terme. Et du coup, comme j'ai raté des marches, voilà, c'est en ça qu'il y a quelque chose d'irréversible là-dedans. Après, je nie pas et clairement, je bénéficie d'un diplôme à vie et du statut de fonctionnaire qui fait que je peux retrouver un travail dans la fonction publique assez facilement. Mais il y a aussi, bah, en fait, là, depuis 3 ans, j'ai vécu trop de choses, en fait. Et
Qui
je peux
t'ont
pas les
transformé,
oublier.
quoi, ouais.
Ouais, enfin, ça m'a transformée politiquement, en fait. Et je crois que j'arriverai moins à. Je serai moins bonne au théâtre, quoi. Mais ça va peut-être moins me servir aussi. C'est-à-dire que c'est pas. Peut-être que je serai plus frontale, mais ça va me desservir, en fait. Ça va me mettre en difficulté. Ça se trouve, ça serait compliqué si j'y retournais. Et puis, en fait. Je pense que j'aurais l'impression de trahir aussi les copains.
Les années que tu as passées après avoir quitté ton dernier boulot, tu les as un peu ou en partie racontées dans un livre, donc Au pays des alternatives, donc qui est sorti en mars 2022, où tu racontes différentes initiatives à travers le pays. Ce qui lie ces initiatives, quels messages politiques sont portés, et aussi ce que ça a provoqué en toi. Ça a l'air, mais c'est pas si facile que ça à résumer ce livre. C'était quoi pour toi l'intention que tu avais quand tu as écrit ce livre?
En fait, j'avais plein d'intentions en écrivant ce livre. Déjà, je dirais l'intention, c'est que je sais qu'il y a plein de personnes comme moi, en fait, dans des parcours de désertion, et je sais qu'il y a plein d'autres personnes qui sont dans un effondrement psychologique par rapport aux effondrements actuels et par rapport à l'absurdité et la violence du système. Et je trouvais que c'était important aussi qu'il y ait un témoignage de ça, en fait, de ce truc de vouloir remettre en question un modèle, un moule, et comment on s'extirpe de ça, et un peu quel est le parcours qu'on peut faire pour s'en extirper. Enfin, c'est pas en fait, c'est pas un modèle, c'est pas quel parcours on peut faire, c'est moi quel parcours j'ai fait Mais en fait, je parle de moi dans ce livre, mais surtout des alternatives, parce que c'était aussi pour montrer que le monde des alternatives, il n'est pas du tout homogène. Et ça, je ne le savais pas. Je ne savais pas. C'est-à-dire vraiment, politiquement, j'avais une pensée quand même assez élaborée, parce que j'avais beaucoup lu, beaucoup écouté de podcasts, beaucoup creusé la théorie. Mais en pratique, j'avais vraiment très peu de connaissances. Et donc, mes premières pérégrinations, j'étais déboussolée par en fait, la différence, enfin, les différentes alternatives que je découvrais, certaines qui étaient vraiment... on fait de la pédagogie sur la permaculture, mais il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment de politique derrière. Enfin, quand je dis il n'y a pas vraiment de politique, il n'y a pas un concept d'écologie radicale, c'est-à-dire qui... prend en compte les questions de classe, de race, de genre, dans la façon de mettre en pratique son alternative. D'autres qui le faisaient, qui prenaient ça en compte. Et en fait, je crois que j'aurais bien aimé le savoir avant. Peut-être que j'aurais eu un parcours plus direct sur qu'est-ce qui m'intéresse vraiment aujourd'hui. J'avais aussi envie de partager, enfin d'écrire, noir sur blanc, en fait, les questionnements par lesquels je suis passée, parce que je sais qu'il y en a plein d'autres qui passent par les mêmes. C'est en fait, j'ai pris conscience au fur et à mesure, dans mon parcours de désertion et au pays des alternatives, que c'était hyper lambda ce que je vivais, c'était hyper commun. J'avais l'impression d'être toute seule dans mon coin, en PLS des fois, émotionnelle, et que gérer, et que j'avais l'impression d'être toute seule dans mon coin à faire ça. Et en fait, je me suis aperçue qu'il y avait plein d'autres personnes qui faisaient ça, et que tout ce que je ressentais, il y avait plein de personnes qui le ressentaient aussi. Et en fait, j'avais l'impression, en faisant ce livre, que c'était un peu un... Quelqu'un d'autre aurait pu mettre son nom et pas l'écrire à ma place, mais ça aurait pu, en changeant quelques trucs, ça pourrait être la vie d'une autre personne, quoi. Et j'avais envie que ça existe, que en fait, d'autres personnes aussi un peu moins engagées puissent le lire et se dire « Ah ouais, c'est ça que certaines personnes vivent. » Et par exemple, ma mère, là, elle m'envoie des messages parce qu'elle est en train de lire le livre, et elle me dit « Ah, mais je comprends mieux. Je suis fière de toi. Maintenant, je comprends mieux tes engagements. » Et en plus, elle ne me dit pas « Je comprends mieux tes engagements. » À chaque fois, elle me dit « Je comprends mieux vos engagements. » Elle part toujours en vous quand elle parle de ce qui est écrit dans le livre. Et vous pouvez être fière, vous êtes dans le droit chemin ou dans le juste. Enfin, et je trouve que c'est hyper touchant, mais du coup, j'ai l'impression que c'est un peu le témoignage d'une certaine communauté. Et c'est ça qui était important, c'était de nous rendre un peu honneur par rapport à tout ce qu'on traverse, et de rendre honneur aussi aux alternatives qui existent et qui des fois restent dans l'ombre. Et de aussi faire ce maillage entre plein de trucs qui sont différents et de rendre compte des questions qui se posent. Et aujourd'hui, enfin, il y a quand même pas mal de documentation qui existe sur les alternatives et les luttes en général, mais je trouve qu'il n'y en a jamais assez. C'est important de documenter parce que c'est vraiment des terrains expérimentaux, en fait. On est vraiment dans l'expérimentation. Et il faut archiver, quoi. Enfin, moi, c'est ça qui me passionne aujourd'hui, c'est créer de l'archive, enfin, se créer de la documentation, faire de l'archivage, de garder un témoignage de tout ce qui se passe, quoi.
Je t'ai pas fait beaucoup développer ce que tu as vu, ton parcours et tout. Oui. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose de plus sur ce sujet, sur ton après-désertion, quoi? Mais peut-être que tu as envie juste de dire ce que tu as fait, par exemple.
De ce que j'ai fait?
Ouais.
Ah oui, bah, de ce que j'ai fait, j'ai voyagé avec mon sac à dos en France. J'ai passé environ 2-3 semaines dans différents lieux. Donc au début, je connaissais vraiment rien, donc je passais par des woofings, quoi. Donc je suis allée, j'ai découvert des espaces pédagogiques en permaculture. J'ai fait un peu de volontariat dans une association paysanne. Je suis allée au camp climat organisé par Alternativa, les Amis de la Terre, NVCOP21. J'ai fait des chantiers de yourtes. Et j'ai découvert aussi le collectif La Bascule. Et à ce moment-là, ça m'a fait beaucoup de bien, en fait, de retrouver des personnes un peu de mon milieu, on va dire, qui avaient un engagement politique. Moi, c'est vraiment les questions politiques, pas forcément politique institutionnelle. Eux, ils sont plus dans la politique institutionnelle, mais en fait, ça m'a fait du bien de retrouver ces discussions-là. Et j'ai compris à ce moment-là que j'avais vraiment besoin de ça dans les milieux dans lesquels j'évoluais. Ensuite, j'ai un peu évolué aussi dans des structures qui proposaient de l'écotourisme. Là aussi, j'ai commencé à être un peu dérangée par l'écologie individuelle. Enfin, pour moi, en fait, partir de la ville pour acheter un terrain, une maison et mettre des tiny, des habitats légers et faire de l'écotourisme, pour moi, c'est de l'écologie individuelle. C'est-à-dire que tu te sauves juste toi-même et tu continues tu gardes ta classe sociale, enfin ton capital économique, social, culturel. Et en fait, pour moi, c'est pas intéressant. Enfin, c'est mieux de faire ça que de travailler chez Total. Mais je trouve pas que ça amène à une émancipation collective et une remise en question des systèmes de classe. Mais en fait, là, ça a commencé à me questionner. Parce qu'avant, je pensais vraiment que toutes les alternatives étaient au top. Je pensais vraiment pas que certaines alternatives rejouaient des problèmes de rapports de classe. Du coup, comme j'ai traîné un peu avec la bascule, je me suis intéressée à la politique institutionnelle, donc la Convention citoyenne pour le climat. Je suis partie aussi à Bruxelles pour voir un peu ce qui se passait au niveau de la politique européenne. Il y a eu le confinement. Et après le confinement, j'ai voulu m'intéresser plus dans des actions de désobéissance civile avec XR.
Extinction Rébellion.
Avec Extinction Rébellion. Et en fait, j'ai voulu vraiment être plus impliquée dans l'activisme. Donc je suis par exemple partie en Allemagne faire des actions avec N2GLN2, donc dans les mines de charbon. J'ai fait plein de petites actions, grosses actions de désobéissance civile. Et en fait, c'est quelque chose qui me parlait vraiment. Mais j'avais un peu du mal sur le pacifisme de certaines actions, alors que la colère en moi était grandissante et que la situation pour moi est tellement violente déjà que je trouve qu'elle... Enfin, pour moi, j'avais besoin d'être plus frontale. Et j'avais aussi besoin de voir des milieux plus radicaux, parce que dans tous ces milieux-là, pour moi, on n'étudie pas, enfin, on questionnait pas suffisamment les rapports de classe, de genre et de race, mais même c'est très peu questionné de manière générale. Donc j'ai voulu me rapprocher de milieux un peu plus anarchistes, un peu plus radicaux, plus anticapitalistes, donc pas forcément à des endroits précis, mais plus avec des personnes et plus une dynamique, des moments de retrouvailles, des façons de faire des actions et des façons aussi de penser le collectif. Et aujourd'hui, ouais, c'est vraiment... Je dirais que maintenant, c'est les milieux un peu plus autonome dans lesquels j'ai envie de m'investir, mais je suis revenue un peu de ça au sens où je sens des fois une pureté militante qui est anxiogène et contre-productive. On reparle de la productivité, mais des fois je trouve que ça casse vraiment des dynamiques et en fait ça crée quelque chose de très obscur et de très jugeant et d'autoritaire. Et donc là ma question c'est comment ne pas rejouer de l'autoritarisme dans les milieux autonomes en fait.
Tu me disais avant l'enregistrement que tu avais l'impression dans ton milieu professionnel, enfin dans le milieu professionnel en général, qu'il y avait beaucoup cette logique d'avoir soi-même comme projet, donc un projet professionnel, et que tu avais l'impression que dans, entre guillemets, le pays des alternatives, il pouvait aussi y avoir un peu ce problème-là d'injonction à devoir se réaliser soi-même par le biais de faire des choses, de produire des choses, de se rendre utile. Est-ce que tu peux un peu expliciter cette idée ?
C'est vrai qu'aujourd'hui, ça m'amuse, et en même temps, ça me désole, et en même temps, enfin, j'ai de l'empathie quand je vois, par exemple, passer des publicités ou des annonces pour... changer de métier et avoir un métier à impact ou avoir un travail durable. Mais et une demande aussi de beaucoup de personnes qui sont dans un métier de merde, qui n'a pas de sens ou qui est délétère en fait, qui a un sens mortifère, quoi, que ce soit pour soi ou pour le reste de la société, et qui disent bon, qu'est-ce que je peux faire ? Quel métier à impact je peux avoir ? Et en fait, c'est compliqué parce que ça vient poser la question du sens de la vie, en fait. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Qu'est-ce qui nous met en joie? Et c'est vraiment un exercice difficile pour moi, je trouve, de savoir qu'est-ce qui, par exemple, nous met en joie, qu'est-ce qui nous rend heureux. Ce qui me rend heureuse, enfin, ce qui va rendre heureux, par exemple, certaines personnes, c'est de se sentir utile. Et se sentir utile et reconnu dans la société, c'est quelque chose qui nous fait du bien et des fois, c'est un besoin aussi. Donc, je comprends ce besoin donc de beaucoup de personnes, et moi pareil, hein, de se sentir utile. Mais en fait, je pense que c'est aussi une différence de vision politique. Est-ce qu'on quitte un taf juste pour écologiquement faire des trucs mieux? Ou est-ce qu'on quitte un taf parce que politiquement, on est contre l'organisation systémique enfin, du travail et est-ce qu'on a une vision plutôt anarchiste ou pas? Et c'est vrai que du coup, ça va influer sur notre direction, quoi, ce qu'on fait après. Et c'est vrai que je vois beaucoup dans le milieu des alternatives des personnes qui, par conviction écologique, vont vouloir changer de métier. Et en fait, par contre, ils vont reproduire les mêmes codes de nécessaire productivité, d'être utile, d'être productif, d'avoir un statut social, de faire carrière dans quelque chose. Par exemple, d'avoir des projets à impact environnemental. Et en même temps, je comprends ce besoin d'être utile, en fait. C'est hyper important, mais je pense que ce qui est important, c'est de positionner le curseur entre... Bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je me sente utile à la société, pour que je me sente bien, quoi? Est-ce qu'il y a besoin d'être utile à la société, en fait, aussi? Est-ce que être utile à la société, c'est pas juste se sentir bien dans sa peau? Enfin, je sais pas, c'est vraiment une question philosophique, ouais, et de sens de la vie. Et c'est vrai que moi, au début, j'ai cherché à faire en sorte d'être utile et même productive dans ma désertion. C'est pour ça que je me suis mise à faire plein de reportages vidéo sur les alternatives. Et en fait, là, de plus en plus, je suis de moins en moins productive. J'ai de moins en moins d'énergie pour ça. Parce qu'en fait, j'ai tellement déconstruit ce truc. Enfin, ce truc de ah, il faut être productif pour avoir un sens dans son existence. En fait, maintenant, c'est quelque chose que je boycotte un peu. Mais le truc un peu négatif à ça, c'est des fois ne vraiment plus rien faire, quoi. Pour moi, l'engagement écologique, politique, c'est pas juste je change de métier pour avoir un métier plus écolo ou je vais devenir ok, je quitte l'ingénierie pour je sais pas devenir maraîchère, mais en fait je vais me tuer à la tâche, je vais reproduire des trucs de productivité, même si je suis labellisée éco-serre. Et en fait, je vais pas prendre soin de moi, je vais pas prendre soin de ma joie, je vais me prendre la tête par rapport à des objectifs. Ou par exemple, dans le lieu collectif où je vais vivre, on va s'organiser comme dans une entreprise, avec des statuts bien particuliers, une comptabilité. On va partager que ça. Et on va reproduire les schémas de propriété privée. En fait, pour moi, je trouve ça un peu dommage. En tout cas, c'est pas ma vision politique. Mais je pense que de l'autre côté, enfin, c'est vraiment un curseur. Où est-ce qu'on met le curseur de aussi de prendre soin de soi sur le long terme? Des fois, je me dis, il y a quand même des trucs, il faut s'organiser un petit peu sur le long terme pour sa subsistance. Et du coup, ça demande d'être un peu productif aussi. Ouais, c'est une grosse question.
Est-ce que tu arrives à te projeter à moyen terme? Et est-ce que les questions matérielles, d'argent en particulier, tu es sereine avec ça ou est-ce que ça peut t'angoisser?
J'ai du mal à me projeter sur le long terme. J'ai l'impression que tout m'échappe un peu comme du sable, quoi. Ouais, tout me glisse entre les mains, c'est compliqué. J'ai du mal à me projeter sur ce que je vais faire dans des prochaines années ou de me projeter avec une idée, un peu un paysage de ce que j'aimerais. Je dirais que là, aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est de m'investir dans différents collectifs. Plutôt anarchiste et en lutte, avec l'envie de me mettre à disposition pour que ça puisse se pérenniser tant que ça peut se pérenniser, et d'être plutôt ni nomade ni sédentaire, mais évoluer entre ces différents endroits-là, et justement de organiser petit à petit une subsistance individuelle et collective. C'est pas tant la question de l'argent, mais c'est la question du confort matériel, psychologique, qui me préoccupe. Donc j'ai envie assez vite de commencer à réfléchir de comment je peux habiter dans différents lieux, matériellement. Ça me préoccupe quand même beaucoup. En fait, comment tout recréer, comment recréer un équilibre relationnel, affectif, plus ou moins économique. Enfin, économique, je l'entends plus par rapport aux ressources, c'est-à-dire comment avoir les ressources d'être en bonne santé, d'être bien reposé, d'être confort, d'avoir chaud. Et quand tout ça est répondu, de pouvoir être épanoui et s'investir comme j'en ai envie dans ce que j'ai envie de découvrir. Donc, je n'ai pas de réponse très, très claire et précise.
Alors, je te propose de passer à la dernière question et j'espère que tu l'as préparée. Quel message tu aurais envie de faire passer aux personnes qui nous écoutent et qui se posent des questions, qui remettent en question leur métier, leur boîte, le salariat?
Moi, le conseil que j'ai envie de donner, c'est de suivre, ça a l'air un peu bateau comme ça, mais de suivre son intuition. Quand j'avais ces petites voix dans ma tête qui me disaient la Vivi, c'est du bullshit ce qui se passe autour de toi, bah j'essayais de mais non, de continuer à me. Il y avait une autre voix qui essayait de continuer à me conformer. Et je dirais d'écouter cette petite voix qui nous dit que c'est pas normal. Parce qu'en fait, c'est là où on se trouve vraiment, en fait. C'est là où notre véritable personne se trouve. Et je trouve que c'est dommage de passer à côté de ça. Et donc, je conseillerais d'écouter cette petite voix et aussi de prendre son temps, pas se prendre son temps, genre mettre des années à préparer son départ, mais de s'organiser pour que ça soit pas. Non. Parce que c'est inconfortable, en fait, la désertion. C'est hyper inconfortable sur plein de niveaux. Enfin, là, je pense on a suffisamment évoqué cet inconfort. Du coup, comment se rendre les choses confortables? C'est-à-dire de ne pas se griller les ailes trop vite aussi. Parce que, à un moment, quand j'ai commencé à m'investir vraiment dans des milieux un peu radicaux, il y avait un peu un truc de sacrifice pour pas revenir en arrière. Et en fait, je pense que c'est pas sain. Il faut faire les choses en étant ancré, en fait, de savoir que je prends cette décision parce que ça me parle pour cette raison, pour cette raison, pour cette raison. Et de bien prendre le temps d'être ancré dans sa démarche. Et surtout, pour les personnes qui se sentent seules, il y a plein de personnes qui vous attendent un peu partout en France et faut juste aller les chercher quoi. C'est une bonne conclusion?
Ouais, c'est trop cool. On s'arrête là.
On s'arrête là. Merci.
Merci à toi.